Une actualité riche cette semaine encore et qui aura surtout été marquée par la première visite apostolique du pape aux périphéries du monde. François s'est rendu pour quelques heures sur l'île sicilienne de Lampedusa, la porte d'entrée de l'Europe pour de nombreux migrants en provenance d'Afrique, en quête d'une vie meilleure, parfois au péril de leur vie. La situation tragique de ces migrants, trop souvent oubliée, a été au cœur de l'homélie de François qui a fustigé avec force la mondialisation de l'indifférence, tout en appelant à un vrai réveil des consciences. Une visite, on le devine, riche en émotions pour les habitants de l'île. Une visite à la signification extrêmement forte. C'est ce que nous avait partagé Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis.
Lampedusa, c'est bien une petite île, effectivement, mais c'est probablement la nouvelle frontière qui nous est posée à nous en tant qu'êtres humains. Notre capacité d'accueillir l'étranger, c'est un test de notre humanité. Et le choix du Saint-Père, de Pape François, d'aller là, pour nous, Réseau Caritas, c'est quelque chose qui résonne très très fort. Ces migrants sont d'abord des êtres humains, des frères et sœurs qu'il faut accueillir. Notre mission, je crois, à tous, elle est d'accueillir et de rompre cette indifférence dans laquelle nous sommes bercés, nous sommes entretenus par une culture qui nous a fait perdre une partie de cette dimension d'humanité, la personne humaine, trop souvent reléguée à peu de choses, surtout quand elle est autre, quand elle est différente, quand elle est étrangère.
Le Canada sous le choc après l'explosion d'un convoi ferroviaire dans la ville touristique de Lac-Mégantic. On compte une cinquantaine de morts et de disparus. La ville est en grande partie dévastée et des milliers de litres de pétrole provenant des réservoirs accidentés se sont déversés dans la rivière Chaudière, un affluent du fleuve Saint-Laurent. La colère des habitants gronde. Ils accusent la MMA, la compagnie ferroviaire en charge du convoi, d'être responsable de cette tragédie. Le pape François a exprimé sa proximité spirituelle avec les familles endeuillées par ce drame. Il a envoyé un télégramme de condoléances à la population de Lac-Mégantic, une population éprouvée que veut aider l'Église. Monseigneur Luxir est l'archevêque de Sherbrooke, dont dépend Lac-Mégantic.
Il y a beaucoup, beaucoup de tristesse et aussi de colère devant un tel événement. Il faut dire aussi en même temps que c'est une communauté qui est très solidaire. Beaucoup d'entraide, les gens ont vraiment mis la main pour rendre service, pour accueillir ceux qui étaient sans logis, pour les nourrir. Les commerçants ont fait beaucoup pour nourrir cette population. Et aussi au niveau pastoral, le curé, le vicaire, les diacres permanents, l'agent de pastoral, ils étaient présents sur le terrain pour écouter, pour vraiment écouter les personnes.
La situation reste chaotique en Centrafrique. 5 ONG françaises sonnent l'alarme dans un communiqué commun. Elles dénoncent l'abandon de ce pays et appellent la communauté internationale à se mobiliser pour aider la population qui manque déjà de nourriture et de médicaments. Depuis la chute en mars dernier du président François Bozizé, chassé par les rebelles du Séléka, les bailleurs de fonds ont gelé leur aide. Ces aides seront débloquées seulement si la situation politique se stabilise. Mais le coup d'État a encore plus affaibli le pays. Résultat, la Centrafrique est incapable de gérer la multiplication des groupes armés. Écoutons André Minger, responsable des programmes en République centrafricaine pour Médecins sans frontières.
Pourquoi la communauté internationale, les gens qui savent pourtant ce qui se passe avec tous les moyens de communication actuels, pourquoi les gens ne viennent pas nous aider? C'est la question qu'on pose. Ça fait quand même des années, ce pays qui est quand même situé au cœur de l'Afrique, vit quand même en périphérie, mais de la périphérie. Hein. C'est devenu une espèce de trou noir médiatique et politique. Et puis ça, malgré des décennies de dégradation des conditions de vie.
L'État du Soudan du Sud célébrait cette semaine le 2e anniversaire de sa création. Un anniversaire en demi-teinte, car 2 ans après, rien n'a changé, ou presque. Les relations avec Khartoum restent tendues et le pays doit faire face à l'extrême pauvreté de sa population. Il faut ajouter à ce constat sans appel l'arrivée massive de réfugiés venant du Soudan voisin qui franchissent chaque jour la frontière. Pour Corinne Thor, coordinatrice du camp de Yida, situé dans la partie nord du Soudan du Sud, ces nouveaux réfugiés n'ont pas d'autre choix face au conflit qui gangrène encore la région.
C'est vraiment un conflit interne au Soudan entre SPLA North, c'est l'armée du pays, et la fraction rebelle. Donc, ce qui veut dire que ce sont des combats en interne avec des bombardements sur le territoire soudanais. Et c'est ce qui explique malheureusement que les cultures soient détruites et qu'un certain nombre de réfugiés partent sur Yida, donc côté Sud-Soudan. Le problème est que Yida était situé à peu près à 15 km de la frontière qui s'appelle Jao, d'où la facilité à avoir un afflux de réfugiés et toutes les problématiques sanitaires au niveau du camp.
Changement au sein du parti Baas en Syrie. Bachar al-Assad a procédé lundi à un remaniement complet du commandement armé du parti alaouite au pouvoir depuis 1963. Le premier ministre syrien, Wael al-Awlaki, et le président du parlement, Jihad Laham, font leur entrée dans la direction du parti. En revanche, Farouk al-Sharrah, seul partisan d'un compromis avec les rebelles, en est écarté. En pleine crise syrienne sur le terrain, que signifie ce remaniement de la part de Bachar al-Assad? Nous avions posé la question à Fabrice Ballange, directeur du groupe d'études et de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient à l'université Lyon 2.
La stratégie, donc, c'est faire porter la responsabilité de la crise à des corps intermédiaires, comme le commandement du Baas. C'est s'entourer par une nouvelle génération, des quadras comme lui, qui vont le soutenir. Et puis surtout, c'est préparer l'élection présidentielle de 2014. Bon, qu'il est sûr de remporter, parce que même s'il y a d'autres candidats en face de lui, il aura un appareil qui permettra de faire sa campagne. Bon, c'est de toute façon que les élections sont truquées, mais quand même, il faut donner une apparence de plébiscite, et la machine bassiste est rodée à ces élections présidentielles, à cette propagande, en faisant voter les gens, en peuplant les meetings du président, créer une machine de propagande pour retrouver une légitimité en 2014.